Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30 et plus si affinité. Je disais que Kikinkou c'était le magazine de la moto et des motards, mais je devrais dire en plus plutôt le magazine des deux roues motorisées. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la mobilette. Mobilette et compagnie, et cyclo en fait. On va parler mobilette et cyclo, une fois n'est pas coutume. Alors pour traiter ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans les studios, le rédacteur en chef de la revue Mob & Co, monsieur Bertrand Lebrun. Bonjour Bertrand.
Bonjour Luc.
Bonjour à tous les auditeurs.
Ça va, t'as trouvé facilement nos studios?
Oui, très bien. Un peu de neige, mais bon, on n'avait pas la mobilette aujourd'hui.
Un cadre magnifique, t'as vu, pour t'accueillir.
Ah oui, il y a beaucoup d'associations qui aimeraient bien voir votre local, c'est sûr.
Et on a mis le chauffage, hein, on a pensé à toi.
Ouais, c'est gentil pour les gens qui viennent d'un peu plus bas.
Voilà. Donc, tu viens de sortir le numéro de Mob & Co, là, donc tu es le rédacteur en chef. Je me souviens qu'on t'avait interviewé à la sortie du...
Vous magazine. Avez eu la gentillesse de m'inviter. C'est vrai que le phénomène mob continue de progresser. Donc, tous les jours, on découvre des sujets en France et à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui est en plein boom. On va avoir l'occasion d'en parler ensemble.
Voilà. En plus, on te connaît, nos éditeurs aussi, parce que tu fais partie donc de la vie de la moto.
C'est
et
ça.
Qu'on t'a déjà interviewé plein de fois pour les coupes Moto Légende.
Voilà.
Ou sur le salon aussi, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Mob & Co est l'émanation des éditions LVA, effectivement, de deux supports moto que les gens connaissent, vos auditeurs connaissent sans doute, Moto Légende mensuel et La Vie de la Moto. L'hebdomadaire consacré aux motos de collection.
Voilà, plutôt orienté, ouais, effectivement.
Voilà, comme on a senti poindre un petit peu le regain d'intérêt, on va dire, pour la mob ces dernières années, on s'est dit que ça pourrait être sympa de lancer un magazine sur le sujet pour essayer de fédérer un petit peu ce petit monde, quoi.
On va en parler davantage tout à l'heure. Pour accompagner Bertrand, Eric a pensé, tout naturellement, bien entendu, à inviter le club emblématique de la région, hein, le Ch'ti-Cube des webs,
voilà. Un des plus anciens clubs avec Jackie qui est ici avec nous.
Voilà, le président Jackie,
président historique et créateur.
Voilà, en 2005. Ouais. Salut Jackie.
Bonjour à tous.
Alors Jackie et Bertrand, vous vous connaissez mais vous vous êtes jamais vus, hein.
Voilà, c'est ça. Moi, travaillant au siège social des éditions, j'avais pas encore eu l'occasion. Là, je me suis réinstallé dans la région parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici.
Parce que la région est bien aussi.
Voilà, c'est pas à vous que je vais apprendre ça avec tout ce qui s'organise, les clubs, etc. Le département, la région compte parmi celles qui matriculent le plus de deux roues. Et c'est aussi vrai pour la mobilette quand on voit l'histoire. La mobilette dans le Nord-Pas-de-Calais, région laborieuse, les gens ont toujours utilisé les mobilettes, et je parle même pas d'histoire industrielle quand on sait qu'elles ont été construites à Saint-Quentin.
Il y a même un musée d'ailleurs.
Exactement.
Tout à fait, ouais. Jackie et le Ch'ti-Cube des webs a déjà bénéficié d'un reportage dans La Vie de la Moto.
Tout à fait, pas encore dans Mob & Co, mais dans un hors-série de La Vie de la Moto qui avait préfiguré, en fait, qui nous avait servi de numéro pilote.
Pour ma part, je suis bien content de te rencontrer, Bertrand, parce qu'on avait eu l'occasion de converser par mail et par téléphone. Et puis, c'était vraiment super sympa, en fait, l'article dans La Vie de la Moto hors-série.
C'est normal, on est là pour parler de ce qui se passe autour de nous. Donc, il se passe des choses ici, on vient voir et on relate.
Super. On aura aussi du téléphone, hein, parce qu'on n'a pas que des invités dans les studios. Donc, il y aura Gaston qui va donc témoigner de son expérience au guidon d'un Chrysler. Voilà, cherchez le terme, le fleurette, qui veut dire...
Comté.
Comté fleurette. Non, c'est...
Ah non, je me trompe d'émission, pardon.
Non, c'est l'épée, là, tu sais, le fleuret, là.
Ouais, le fleuret.
C'est ça, en fait. Et on finit le tour de table en citant à la programmation musicale et à la technique, monsieur Laurent.
Our conversation was short.
nearly swept me off of my feet, and I'm back in the rain. Oh, and you're on dry land. Oh, you made it there somehow. You're a big girl now. Bird on the horizon, sitting on the fence, singing his song for me at his own expense. And I'm just like that bird. Oh, singing just for you. And we're singing through these tears. Time is a jet plane, it moves so fast. Oh, but what a shame if all we shared can last. I can change, I swear. See what you can do. I can make it through. You can make it too. Love is so simple, to quote a phrase. Known it all the time. I'm learning it these days. Well, I know where I can find you. Oh, in somebody's room. It's the price I had to pay. Weather is known to be extreme. What's the sense of changing horses in midstream? I'm going out of my mind. Oh, with a pain that stops and starts. Oh, like a corkscrew to my heart. Since we've been apart, you're a big girl now. You're a big girl.
Une petite musique sympa pour se réveiller le dimanche matin, c'est cool hein, sur Radio Campus. Alors on est, bah vous êtes à Kikinkou, le magazine de la moto, qui aujourd'hui va parler du deux roues motorisées, de la mob et du cyclo en général. Donc voilà, on se disait, enfin moi c'est moi qui disais, hein, je disais voilà, donc effectivement on observe, c'est bien un phénomène. Mais alors je me posais pourquoi cet engouement, qui sont ces personnes qui pratiquent la mob, et surtout est-ce que c'est effectivement un phénomène qui va durer, ou est-ce que c'est juste un effet de mode par rapport au vintage qui est relativement bien chez Bran aujourd'hui. Alors il y a Bertrand, hein, donc le rédacteur en chef de Mob & Co, donc, et puis Jackie, hein, qui est le président du Sticky Bewak, donc qui connaît bien le sujet aussi. Selon vous, je vais donner d'abord la parole à Bertrand, selon toi, c'est quoi ? C'est un phénomène ou c'est quelque chose qui va durer vraiment ?
Oh, je pense que ça va durer un petit moment, parce que ça fait déjà quelques années quand même qu'on voit poindre le regain d'intérêt pour la mob. C'est vrai que c'était devenu un engin, on peut le dire, un peu ringard dans les années 2000. Les ados l'avaient totalement écarté pour le scooter et d'autres moyens de locomotion.
Et autre chinoiserie, c'est
voilà,
ça.
Là, ça fait un petit moment que, enfin, c'est revenu au goût du jour. Il y a plusieurs raisons, selon moi. Déjà, il y a le côté économique. C'est vrai que il y a encore quelques temps, bon, c'est de moins en moins vrai parce que la cote a tendance un petit peu à.
C'est le problème du vintage.
Augmenter. Bah, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Comme il y a de plus en plus d'intérêt pour l'objet. Forcément, ça prend un petit peu de valeur. Mais donc, c'était, il y a encore quelques temps, c'était pas cher. Donc, ça permettait de se faire plaisir dans les bourses d'échange de pièces, ouais, etc. On voyait beaucoup de mobilettes. C'est vrai qu'on pouvait en acquérir pour pas trop cher. Donc, ça, c'est le premier facteur, le côté économique. Après, il y a le côté nostalgie. Hein. C'est comme pour tout en ce moment, le vinyle qui revient, les fringues, les vieilles voitures.
Ouais, c'est ce que je disais, c'est un effet de mode, du
voilà,
coup.
Voilà, c'est la nostalgie parce que bon, il y a tous les quinquagénaires comme moi qui redécouvrent un peu l'objet qu'ils ont connu quand ils étaient ados. Et comme je dis souvent, pour cette génération-là, la mob, c'était un peu le réseau social de l'époque. Quoi. On n'avait pas Facebook. Pour aller voir sa petite copine dans le village d'à côté, il fallait une mobylette.
Il y a une blague de Coluche comme ça, il dit... Un bled où c'est la zone, il n'y a même pas un troquet ou une mobilette.
C'est ça. Donc bah, toute cette génération-là, elle redécouvre un peu l'objet. Puis c'est des gens qui ont un petit pouvoir d'achat aujourd'hui. Donc ils se font plaisir. Ils acquièrent la mobilette que leurs parents leur ont refusée à l'époque. Ils restaurent celle qu'ils avaient quand ils avaient 14 ans. Donc il y a le côté nostalgie. Et puis le troisième point, je dirais, c'est que bah, la mob, c'est plus du tout un utilitaire. C'est devenu presque un vecteur de communication. En fait, on voit la mob, elle sert de support pédagogique à des enseignants pour apprendre la mécanique. J'ai vu par exemple il n'y a pas longtemps une colonie de vacances à mobilette. La mob, on la voit dans des centres d'expo. Là, on a eu un bel exemple dans la région au Donjon de Vaise à côté de Compiègne. On la voit aussi dans des... Comment dirais-je... Oui, dans des...
Des lieux culturels
dans
aussi.
Des, ouais, lieux culturels. Là,
j'allais en parler après.
Tout à fait, voilà.
Mais quand tu parles des policiers, moi, ça me fait penser à... Bah, le côté pédagogique du policier, quand même, pour une fois. Ça me fait penser au circuit de Lausanne, où, effectivement, tu avais des mobs et les gamins pouvaient apprendre à rouler sur un deux-roues motorisé en toute sécurité sur le circuit, accompagné par des moniteurs agréés. Quoi.
C'est ça. Donc, là, récemment aussi, dans la région, j'ai vu qu'une compagnie de théâtre amateur livrait des chansons à mobilette. Enfin, je veux dire, c'est devenu un objet, vraiment un vecteur de communication, en fait, on va dire. Donc, tous ces facteurs-là font que, pour moi, c'est pas vraiment un effet de mode. Ça va perdurer. En plus, il y a des associations... ouais, qui la font vivre. Donc
ouais, mais tu vois, le côté justement culturel, voire limite bobo, quoi. Je pense au dernier film donc de Mohamed Hamidi, là, avec il y a une affiche avec Jamel Debbouze et puis l'autre acteur, la Tefliq Jalal, où ils sont sur une mob, mais en fait c'est juste pour l'affiche, quoi. C'est juste parce que elle est pas au cœur du sujet du film non plus.
C'est
dedans.
Le côté marketing de la mob.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Ouais, c'est ça. Mais enfin.
Après, à l'Opéra de Paris, c'est pareil. Et il y a aussi une pièce italienne, ouais, où tu as des mobs, mais c'est un décor, en
tout
fait.
Tout à fait. Mais oui.
Il y a le côté un petit peu, tu vois, à chaque fois, je sais pas, un petit peu vintage, quoi.
Je me sers de l'outil, effectivement, parce que c'est un truc qui est un petit peu à la mode en ce moment, mais c'est pas pour ça que c'est ça qui fera perdurer. Je pense que ce qui fera perdurer, c'est les passionnés.
Ouais, les associations, plus, comme on parlait.
Oui, vous avez raison. Ce qui fera perdurer, ce sont les passionnés, mais ce que je veux dire par là, c'est que le côté ringard et obsolète de la mob, c'est terminé. C'est redevenu quelque chose de tendance. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais. Et donc, Jackie, est-ce que tu partages ce point de vue de la mob qui est plus qu'un objet, uniquement un effet de mode?
Oui, carrément. En fait, nous... Enfin, je vais revenir un petit peu au club au départ. On était... On était plus sur des petites machines de temps ou des machines populaires. Ça fait 16 ou 17 ans. Et puis en fait, au fil du temps, on s'est aperçu que la mob, elle était accessible à plus de monde, en fait.
Ouais, parce que moins chère, plus courante.
Les entretiens très faciles. Ouais. Tout le monde fait un petit peu sa mécanique lui-même.
À la Bourse de Commerce de Paris, là, l'expo est un peu barré, là, où tu as une 103 écrabouillée. qui est dans une armoire normande, quoi, et on appelle ça une œuvre d'art. Franchement, les Parisiens, ils craquent le sac des fois quand même, hein, tu trouves pas ?
Oui, mais ça participe encore une fois. C'est ce que nous, on a voulu montrer dans le journal. C'est pour ça qu'on l'a appelé Mob & Co, d'ailleurs. Mob, bah, pour la mobilette, bien sûr. Mais on voulait pas parler que de boulons et de mécanique, même si, bien sûr, ça nous, c'est ce qui nous intéresse au premier chef. Mais Enco, si vous voulez, et compagnie, mobilette, ouais, et compagnie.
Ouais.
Parce que, voilà, parce que la compagnie, c'est tout, et ça nous tenait à cœur, c'est de parler des gens qui font la mobilette, parce que c'est pas seulement qu'un objet, il y a des gens qui la font vivre. C'est de parler de tout le côté décalé, justement, culturel, pédagogique, etc. Ouais.
Mais justement, en parlant des gens qui pratiquent la mob, donc t'as fait une, enfin en tout cas t'as fait une enquête auprès de tes lecteurs de Mob & Co, et là on voit que la plupart des gens ont plutôt 50 voire 60 balais quand même. Donc ce sont des, comme tu disais tout à l'heure, ce sont des gens qui ont connu la mob quand ils étaient jeunes. D'ailleurs Jackie, c'est pareil, hein, t'as commencé, c'est le parcours classique en fait, hein, t'as commencé par une mob, après t'es passé à une 125 et après à des gros cubes, et c'est bien plus tard que t'es revenu à la mob parce que ça t'a rappelé finalement tes souvenirs de jeunesse.
Oui. Bah en fait, j'ai commencé la mob en 82. J'ai passé le permis 125 en 1986. Le permis gros cube 3 ou 4 ans plus tard. Donc là, j'ai vraiment roulé beaucoup en moto sportive. Et puis, après, il y a eu cette discussion un soir avec des copains dans un bar.
Autour d'une bière ?
Ouais. Ça devait être autour d'un café, je crois. Je ne me rappelle plus bien.
Dans l'article, moi, j'ai vu que c'était une bière.
Et puis donc, moi j'étais bien parti, c'était avec plus les cyclosports. Donc c'est un petit peu plus dans les années 60-70. Mais ça avait déjà un coût à l'époque de restaurer un cyclosport. Hein. Il y a 30 ans en arrière, ça coûtait déjà bien cher. Et puis je suis tombé une fois sur une Peugeot 103, une SP, comme j'avais eu en étant gamin. J'avais dû acheter la mob à l'époque à 100, ou enfin à l'équivalent de 100 ou 150 euros.
Et bleu métallisé, non ?
Oui.
Ah, c'était ça ou rien.
La bleue, quoi. Et du coup, t'es resté dedans.
Voilà.
Mais je disais que donc les lecteurs, ils avaient plutôt 50-60 ans. Hein, avec deux écoles, ceux qui vont et chercher le boulon d'origine, parce qu'il faut que, comme en moto ancienne, hein, il faut que la mob soit comme à l'origine. Et puis ceux, au contraire, qui vont s'amuser à la customiser, à la transformer, voire à la booster, quoi.
C'est ça, bah c'est... Pour revenir sur ce que je disais, Jackie, c'est exactement ça. Il y a ceux qui ont connu la mobilette à l'époque, donc qui la redécouvrent, qui la restaurent. Et puis effectivement, maintenant, on voit arriver, comme la mobilette, ça nécessite pas de permis, on peut facilement convaincre ses copains de l'intérêt de l'utiliser, son épouse, ses enfants. Donc on voit apparaître une nouvelle génération de jeunes qui n'ont pas forcément connu la mob à l'époque de son âge d'or, mais qui redécouvre l'engin. Et puis comme c'est un engin forcément plus facile à customiser, à préparer qu'une moto, parce que ça coûte moins cher et parce que techniquement c'est plus facile, et ils s'amusent, ils laissent libre cours à leurs envies, leurs délires, et on se retrouve un petit peu à voir des choses qu'on avait vues dans les années 80. Tous les amateurs de mob se rappellent de Mob Shop et du tuning et de la customisation,
ouais,
à l'époque.
Chercher le terme, le tuning, ouais.
Voilà, si on peut appeler ça comme ça.
On comme ça à l'époque, hein, d'ailleurs.
Et voilà, on faisait le tour des concessions pour baver devant les vitrines de kits de marque italienne, à utiliser que sur circuit, bien entendu. Et on découvre un petit peu ça aujourd'hui, avec peut-être une tendance encore plus radicale. On voit des préparations de folie avec, ouais, des gens qui ont un vrai tour de main et une vraie... Enfin, des vraies idées sympas. Donc, il y a deux facettes.
Il y a vraiment le côté ludique, effectivement, de la mobilette qui permet d'avoir un accès hyper plus facile comme ça. Ouais.
Yeah.
Vous entendez, c'est un bruit de mob qu'il y a derrière. C'est normal, puisqu'on va parler mob aujourd'hui, mob
très
et cyclo. Avec Bertrand, le rédacteur en chef de Mob & Co.
Voilà, donc bimestriel, tous les deux mois dans toutes les bonnes crèmeries.
Alors, je connaissais, enfin si, j'avais vu quand il était sorti, puisque j'étais là quand on t'avait interviewé, mais je connaissais pas plus que ça, je t'avouerais, le magazine, donc j'ai quand même lu attentivement, et j'ai vu qu'il y avait une rubrique news qui était assez sympa, le courrier des lecteurs, apparemment, c'est les lecteurs, ils insistent beaucoup. Quoi.
On en reçoit beaucoup, ouais, c'est bon signe.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a aussi une rubrique shopping.
Oh ouais, tout à fait, en mob, mais le fait qu'il y ait du shopping dans Mob & Co, en fait, il y a beaucoup de pros qui se sont... un nouveau pignon sur rue qui font de la mécanique mob ou des diffuseurs de pièces qui revendent de la pièce un peu comme à l'époque. Donc ça témoigne du fait qu'effectivement il y a un vrai regain d'intérêt sur le... Alors il n'y a pas encore une économie de la mob, mais voilà, on voit des choses se refabriquer alors qu'on ne trouverait plus grand chose sinon dans les bourses. Là, maintenant, on peut remonter une mobilette avec de la pièce adaptable relativement facilement.
J'ai vu que tu pouvais avoir un moteur neuf de 103 à partir de 300, un peu moins de 400 euros.
Oui, bah, effectivement, il y a des diffuseurs de pièces assez efficaces. Et...
Après, il y a des pièces qui ne sont pas toujours bien refabriquées.
Voilà, ça c'est un autre problème, mais au moins l'offre est là et permet de répondre à la demande des propriétaires.
Ouais, et les clubs permettent aussi d'échanger justement sur la qualité de certaines typologies de pièces et de ne pas se faire avoir pendant des années justement par rapport à ça. C'est aussi l'intérêt des clubs qui se partagent par rapport à ça.
Mais oui. T'as pas mal de professionnels hein, qui proposent quasiment à la fois les pièces d'origine, enfin refabriquées j'imagine, mais aussi de la préparation si tu veux faire.
Accessoires, stickers, enfin tout ce qu'il faut pour restaurer une meule. Quoi. Et oui, il y a les pros, mais il y a aussi beaucoup d'associations. Enfin, nous, à la rédaction, on découvre tous les jours des sujets et des choses qui s'organisent. Il y a beaucoup de gens qui font de la location aussi, de mobilettes. Ça permet, lorsqu'on est en vacances, d'aller se balader, découvrir une région. Parce que le plaisir de la mob, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. C'est de, voilà, on fait tous de la moto. On sait qu'on ne voit pas la même chose à moto qu'à mobilette, parce que forcément, à 45 km/h, on découvre une région autrement. Ouais, alors dans chaque numéro, on essaye effectivement de parler des road trips qui s'organisent, parce qu'il y en a beaucoup. Effectivement, bon, les gens partent avec un petit peu d'assistance, mais c'est quand même relativement... Enfin, c'est de la mécanique relativement simple, Jackie pourra en témoigner. Donc, et c'est le plaisir aussi de la mobilette, c'est-à-dire que...
Bah, de bricoler.
De bricoler et puis de s'entraider en cas de défaillance.
Et de pouvoir bricoler, ouais.
Un peu comme la moto ancienne, quoi, finalement.
Voilà, exactement.
Si tu roules en moto ancienne, c'est parce que tu as un minimum de compétences en mécanique.
C'est ça.
Et c'est vrai aussi pour la mob.
C'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Un moteur de mobilette, il y a deux carters moteurs.
Ouais, mais tu dis ça, mais quand t'as 5 pouces à la place des doigts, c'est pas évident quand même.
Ah ouais, là c'est différent.
Non, mais il faut avoir un minimum de connaissances mécaniques pour pouvoir déjà concevoir et intervenir là où il faut.
Après, il y a beaucoup d'entraide, hein, même sur les réseaux sociaux, il y a des groupes de mobeurs, là où il y a 1000, 2000, des fois 5000 membres. Et puis il y a vraiment beaucoup d'entraide, hein, des astuces, des outils spécifiques qu'on n'a pas toujours et puis qu'on peut remplacer par autre chose.
Ouais, donc vraiment des idées comme ça, et quitte à les fabriquer, puisque maintenant aussi, avec les gens qui peuvent de plus en plus facilement fabriquer avec de l'imprimante 3D, des choses comme ça, ça aide aussi, et comme tu disais, à restaurer des machines dans l'état d'origine, à faire des autocollants d'origine. Il y a beaucoup de gens aussi qui les refont eux-mêmes, en fait, avec ce qui est possible de faire aujourd'hui, quoi.
Après... Ouais, tout à fait. Et après, on n'est même pas obligé de posséder une mobilette et de s'y connaître en mécanique pour en profiter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui organisent des choses maintenant en France ou à l'étranger, où il suffit de s'inscrire et on peut par exemple faire un voyage au Maroc à mobilette. La mob vous attend là-bas, c'est pas très cher.
Avec l'assistance.
Avec l'assistance, donc on peut se faire plaisir. Il y a un tour de Corse qui vient d'être organisé où voilà, n'importe quel motard ou autre pouvait débarquer et faire le tour de la Corse à mobilette sans pour autant venir avec sa propre machine.
Et c'est vrai qu'au Maroc, il y en a eu des mobilettes, hein, puisqu'ils ont continué à en fabriquer après.
Exactement.
Après qu'on nous on est arrêté.
Bécane avait des usines sur place et on en voit encore beaucoup parce que.
Il y a toujours des Peugeot 103 qui sont fabriqués en Turquie, il me semble bien, sous la marque Ramsey.
Oui, sans doute. Alors, il y a plein de... Alors, puisque tu parles de Peugeot 103, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va pas voir ressurgir un jour un cyclomoteur Peugeot parce qu'il en était question, il y avait des rumeurs qui circulaient. Et bon, c'est vrai que ça pourrait être dans l'air du temps, parce que c'est... Comme je dis, circuler dans Paris à mobylette, électrique ou non, ça me paraît quand même plus sécure que le faire en monoroue ou en trottinette sur les trottoirs, mais bon.
Je pense qu'on reverra un Peugeot 103 sur les routes.
Un i-103.
Ouais, c'est ce qui me fait peur, c'est la motorisation.
Bon, on va pas aborder le sujet de l'électrique
pas
aujourd'hui.
Pas de choses qui fâchent au début de l'émission, on a dit.
On n'aime pas trop l'électrique chez nous, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Bon, il y a aussi une rubrique bricolage hein, au sommaire.
Non, mais c'est vrai qu'on a une rubrique technique, parce que ça, c'est incontournable dans un magazine de mob ou de moto ancienne. Et d'ailleurs, je pense qu'on va essayer de l'intensifier, cette rubrique, parce que les gens nous demandent beaucoup de tutos, de choses très pratiques.
Sur certains cyclomoteurs, c'est vraiment très limite au niveau de l'éclairage. J'ai un souvenir avec mon cousin avec lequel on avait versé au fossé avec Peugeot 105. Enfin, c'est un bon souvenir, on s'était pas fait mal. Et j'ai une Peugeot 105 également. J'ai roulé c'était samedi dernier. Je suis rentré dans le noir et on voit à 5
mètres. C'est le cas de le dire. C'est vraiment le cas de le dire. Mmh. Tu rentres dans le noir, même feu allumé.
Voilà, donc on peut trouver des combines aujourd'hui avec les techniques d'aujourd'hui pour améliorer sa mob sans la dénaturer forcément, mais éclairage LED, ça peut être sympa.
Ouais, c'est important, ouais. Ok, on va passer un petit morceau de musique et après on reviendra avec Jackie sur le ch'ticube des web. À tout de suite. Il y a de la mob derrière, on l'entend.
On va entendre une Benelli là.
À l'odeur surtout, à l'huile d'hérisson, c'est ça. On dit ça parce qu'on parle de mob aujourd'hui dans Kick un coup. Et on revient avec Jackie, le président du Ch'ti Cube des Web.
Président et fondateur du Ch'ti Cube des Web.
En 2005.
En 2005. Alors à l'époque, les gens bien intentionnés disent que ça a été créé entre potes autour d'un café dans un bar, mais ça c'est la légende. La réalité c'est que c'était bien avec quatre potes dans un bar, mais autour d'une bière. Et donc vous avez créé ça en 2005, c'est ça? Et avec quatre personnes, dont deux qui sont encore là. C'est ça?
Une, deux...
C'est ça,
ouais.
Et donc, vous avez créé ça à l'époque sur un côté... ch'ti, alors comme petit cube, les ch'ti petits cubes d'ici.
Oui, c'est ça, en fait, oui.
C'est... Mais pas forcément de la mobilette.
Non. On avait tous un petit peu une préférence pour le moteur de temps et puis les petites cylindrées, quoi.
Alors, petite cylindrée, c'est quoi pour toi? Alors, c'est juste que quoi?
125. Ouais. J'en ai, hein, j'ai une espèce jumeau de piste, pour ceux qui connaissent. J'ai la même à restaurer pour la route. Après, j'ai une machine qui est assez rare, qui ne plaît pas. J'ai un 125 Peugeot de 1982.
Qui ne plaît pas, c'est ça?
Ouais. Ça, c'est pas vendu à l'époque.
Ah oui, à l'époque, ouais.
Même maintenant, on trouve encore à prix raisonnable.
Oui, ça, c'est un vrai problème. Donc ça peut être pratique à savoir pour les auditeurs. Il faut acheter des Peugeot 125, voilà. Puisque ça ne vaut rien. Et donc, on peut les racheter et les restaurer pour pas trop
cher. Après, c'était des moteurs, c'était licence Gilera, en fait. Donc c'est pas foudre de guerre.
D'accord. Et donc après, donc là à l'époque, d'ailleurs, vous avez tourné pas mal, vous tourniez sur des circuits aussi avec vos mobilettes ou vos petites cylindrées, ce qui est plus difficile maintenant. Hein,
mais... Ouais, surtout moi.
Ouais.
Ouais.
Toi, t'as été champion d'ailleurs.
En 2010, ouais, dans les Hauts-de-France. Et donc c'était sur un
Ufolep.
Ufolep. En Ufolep. Ouais. J'aurais bien aimé aller ailleurs, mais après, bon, au niveau des budgets, tout ça...
C'est plus pareil, quoi.
Ouais.
Et c'était une époque aussi, même un petit peu avant ça, d'ailleurs, où on tournait dans les villes, je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait des courses dans les centres-villes avec des mobilettes.
Moi, je suis allé aux 8 heures de Lille.
Ouais.
Je pouvais pas y participer, j'étais encore un petit peu jeune. Mais bon, c'était...
Comme quoi c'est... Non, j'allais dire comme quoi c'est ancien, mais non, c'est pas du tout ça que je voulais dire.
Sur le parking Javary.
Ouais. Et à Saint-Omer, on n'avait pas les moyens de faire les 8 heures de Lille, donc on faisait les 4 heures de Saint-Omer.
Ouais,
donc
sur un parking.
Ce qui était déjà pas mal. Ouais, sur
également,
la place, ouais. Etc. Ouais.
D'où le nom de la bière, c'est ça?
Elle s'appelle comment la bière? Je ne bois pas de bière.
Saint-Omer.
Et donc, ok.
Donc c'est un club où il y a, je sais plus, 30 personnes.
Alors aujourd'hui, vous êtes une trentaine de personnes.
Oui,
hein,
c'est ça, oui. Ouais.
Et on verra tout à l'heure, parce qu'on parlera des habitudes de Jackie qui va dans tous les dans toutes les télés du monde. Peut-être que ça va changer. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais effectivement, une trentaine aujourd'hui, et avec une typologie de membres qui sont plutôt des membres. Il y a des jeunes. Il y a un jeune, en tout cas, 25 ans, c'est ça?
Ouais. Après, il y a la trentaine. Il y a les quadros.
Ouais. Et plutôt des gens donc qui sont sur l'idée de se faire des mobilettes restaurées à l'ancienne, comme on pouvait les faire avant, et sans forcément, puisqu'on parlait des deux écoles tout à l'heure, là vous êtes plutôt vous de l'école à l'ancienne plutôt que les mobs qu'on remet avec plein de kits dessus, quoi.
Ouais, c'est des collectionneurs, c'est
ouais,
ça.
Ouais, on n'est pas contre les kits. Hein.
Non, mais des kits cachés.
Ouais. Et ouais, en fait, on a beaucoup de machines d'origine au club. Et il y en a certaines qui sont transformées, mais c'est plus dans l'esprit des années 80,
d'époque, en fait.
90.
Ouais. Oui. Ouais. C'est
oui.
Le fameux tuning d'époque dont parlait Bertrand tout à l'heure.
Moi, je voudrais savoir, pourquoi un jeune de 25 ans, quelles sont les motivations d'un jeune de 25 ans qui va adhérer comme ça à un club de vieux, on va dire?
Souvent, il y a le paternel qui est dans le coup,
ouais,
déjà.
Il y a son vieux paternel qui est là derrière.
C'est la famille.
Ouais. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce côté, comme tu disais aussi, Bertrand, c'est très facile. Il n'y a pas besoin de permis, c'est facile d'accès. Ouais. Et puis, il y a de plus en plus de clubs un peu partout, donc on peut aussi tourner avec des gens. C'est aussi c'est le côté intérêt des clubs et de ne pas rouler seul. Ça se fait beaucoup en moto, mais ça se fait aussi avec ces mobs.
Et pas que de rouler, parce que moi, si j'ai bien compris, il faut aussi bricoler à la mobilette.
Alors, hein. Il faut bricoler, c'est l'intérêt. D'ailleurs, c'est ce que vous faites dans le club. Hein. Jackie, vous filez des coups de main sur le côté bricolage.
Ah oui. Et ouais, je suis souvent même sollicité pour les mécaniques.
Ouais, c'était l'expert là-dessus.
Et vous avez un atelier alors à disposition des membres?
Non, malheureusement, nous, on n'a pas de local sur la Bassée. Il n'y a pas grand-chose en fait en locaux là-bas. Donc ça se passe chez moi quand j'arrive à faire un petit peu de place.
Quand tu débarrasses les 200 ouais. machines de ton garage pour pouvoir bricoler un peu. Et d'ailleurs, par rapport aux machines, t'en as pour toi, mais il y en a pas que pour toi, parce que il y a ton épouse aussi qui fait de la petite deux roues avec vous.
Oui, elle faisait même de la moto avant. Et bah elle, en fait, elle apprécie bien, c'est ma petite Honda GTS.
Voilà, et qu'on a vu dans 50 Power d'ailleurs récemment. En fait, t'as une DAP et une autre à toi.
Une Rockval.
Et une Rockval.
Ouais, bah ça, en fait, c'est les cyclos que je collectionnais avant d'attaquer les variateurs, les 103, etc. Quoi. Ouais, j'ai pas mal de machines de ce genre-là aussi. J'ai une Cradler un peu, parce que c'est une RS. Moi, j'ai pratiquement la même, c'est une RMC en fait. Donc, elle a une boîte 4 vitesses au lieu de 5, et puis un carburateur un peu plus petit, elle est un peu plus bridée en fait. En
D'accord. Sens. C'est une quelle année toi?
Ouais, elle est de 79.
Ah ouais, c'est une vieille, enfin c'est une vieille ouais. récente, je veux dire.
Après j'ai du Cimati, du Gitan Testi, enfin toutes ces choses là quoi, du Fantic. J'en ai une très très rare restaurée. Les chromes sont faits. Il y a quelques années qu'elle est en attente parce que j'ai un problème en fait quand je rentre une machine, souvent je l'attaque avant d'avoir fini d'autres machines.
Ah. on est
beaucoup dans ce cas-là. Et j'ai un Fantic Chopper 50. Je sais pas si tu connais, Bertrand.
Ah oui, mais ça c'était la mobilette Easy Rider. Cadre surdimensionné, enfin selle surdimensionnée, Ape Hanger, c'était vraiment c'était la mob inspirée du film de la Captain America d'Easy Rider.
Ah, comme on avait sur les bécanes aussi.
Elle est extrêmement rare comme machine et elle est fort prisée en Angleterre.
C'est, et donc, est-ce c'est que la tu folie. Vas, est-ce que tu vas réussir à finir de la restaurer ou est-ce que tu en rachètes une autre avant?
J'ai recommencé là. Au début de l'automne, j'ai rattaqué, j'ai fait le réservoir.
D'accord. Donc ça avance. Il ouais, faut la finir et puis tu viendras nous la faire voir ici.
Après, il faut rassurer les gens qui ne mettent pas les mains dans le cambouis. On voit réapparaître aujourd'hui des professionnels qui ont un nouveau pignon sur rue, qui avait totalement disparu de la circulation et qui peuvent s'occuper de nos mobs.
Ouais, qui peuvent réouvrir maintenant du coup parce qu'il y a du marché, effectivement.
Voilà, par exemple, il n'y a pas si longtemps dans la région, par hasard, j'ai découvert à Terouanne, à côté de Saint-Omer, un petit bouclard en fait, familial. Qui est détenu par le grand-père qui était concessionnaire Monet-Goyon au début du siècle et qui continue toujours à entretenir des mobilettes Peugeot ou Motobécane. Donc on peut ne pas s'y connaître et puis trouver de l'aide aussi auprès de ouais. petits garagistes comme à la grande époque de la mobilette.
T'as des ateliers participatifs aussi, non? Il me semblait...
Oui, alors il y a beaucoup de clubs qui...
Sous forme d'association en fait. Qui...
Exactement.
Mais je rencontre assez souvent Jean-Yves Delbecq du magasin Interroi.
Voilà, c'est lui dont je voulais parler.
Ouais,
voilà.
C'est quelqu'un de vraiment passionné. Hein,
Là, on voit que c'est vraiment justement, c'est toute une association, des gens, des clubs, c'est une passion.
Ouais,
c'est
un réseau aussi. Hein.
C'est un vrai réseau. Donc par rapport à ça aussi, pour revenir à ton club, hein, vous participez à beaucoup de sorties un peu partout dans la région, vous avez une sortie annuelle et vous participez aussi à des choses. C'est ça, vous en êtes fiers, hein, c'est les Télétons, vous faites des tas de choses pour le Téléthon en fait tous les ans.
Ah ouais, on a fait plein de trucs, tout le temps un petit peu plus délirants. La première fois, c'était avec une petite Peugeot 102. Donc on avait tourné pendant une trentaine d'heures. On demandait en fait aux visiteurs 1 € du kilomètre. Et puis on avait fait,
656 kilomètres.
Ouais, c'est ça.
C'est bien,
hein.
656 euros.
Ouais.
Après, on avait fait une bascule géante. On avait mis cette petite 102 d'un côté et puis un bac et on vendait des petits sacs de sable à 1 €. Et puis le but, en fait, c'était de faire basculer, faire remonter le...
Et le dernier qui mettait le sac gagnait la 102.
Non.
Non, c'est pour le Téléthon.
Ah, juste, excusez-moi.
C'est la mascotte du club, en plus. Donc, bon.
Ok. Et donc, et on va quand même parler un peu rapidement des choses hyper importantes. C'est que, bon, bah, là, aujourd'hui, tu es ici parce que c'est normal, tu montes dans l'échelle. Il y a eu Canal Plus avec Antoine Decaune, il y a eu TF1 avec le 20h. Ouais. Maintenant, il y a Kikinkou, on ne sait pas comment et quand tu vas t'arrêter.
Bah, là, on est sur un long métrage avec Daddy Boone, justement, avec des vieux loulous en mobilette dans les années 80.
C'est vrai ?
Non, pas du tout.
J'ai dit, mais pourquoi il me l'aurait pas dit ? Enfin, quand je dis il me l'aurait pas dit, c'est Danny Boone, hein, donc, avec qui je dînais hier soir. Et donc, vous avez eu la chance, en fait, d'avoir Antoine Decaune pendant son émission La Gaule d'Antoine sur Canal. Alors, La Gaule d'Antoine, c'est pas celle de Rocco, hein, que les choses soient claires. Donc, c'est une émission qu'il faisait sur Canal+. Et donc là, ils étaient venus chez vous, c'est ça ?
Ouais.
Et il a fait de la mob, il a pris son pied en mob.
Ouais, bah on a une anecdote au club en fait parce que ouais, il avait roulé mais 30-40 ans avant. Et puis en fait il se rappelait plus du décompresseur sur la mobilette. Et celle-là elle est un petit peu vitaminée. Le diamètre du stern piston il est pas d'origine. Et donc il décompressait pas. Et bah, c'était une galère pour lui mettre en route. Et puis je l'ai laissé faire, parce qu'on fait plein de prises de vue.
Ouais.
Donc je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire 3-4 fois.
Il en a bavé, le petit. Ouais, voilà. Surtout qu'il était déjà plus tout jeune.
Donc, fais le sujet après, parce que justement, j'ai aussi des choses à dire là-dessus.
Ah,
on va passer un petit morceau de musique et on reviendra tout de suite.
We'll be right back.
Là, c'est Zendap.
On voit qu'on a dépassé largement le milieu de l'émission parce que la musique est davantage tonique. Je ne sais pas si tu avais remarqué.
C'est pour qu'on se réveille de plus en plus.
Pour accompagner nos auditeurs le dimanche matin, là, ça donne la patate. En parlant de patate, bah justement, on parlait de la notoriété du Sticky Cube des web. Hein. Et donc, après Antoine Decaune, c'était carrément TF1, le journal de 20h. Carrément. Alors c'est comme l'anecdote c'est Bertrand qui a donné les coordonnées de Jackie, c'est ça, aux journalistes de TF1.
Non, mais c'était la moindre des choses, hein. Le club le plus efficace, le plus dynamique méritait un passage télé.
C'est trop bon.
Donc vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé cette notoriété.
Au niveau de TF1.
Ouais.
Donc j'ai été contacté et en fait fallait tourner pour la fin de semaine. Je dis là ça va faire un petit peu court. Je dis
ouais, surtout que vous bossez encore.
Il y a encore pas mal de membres du club qui travaillent. Hein. Donc on a fait ça la semaine suivante. J'aurais préféré que ça aurait été un petit peu mieux au beau jour, quoi, au printemps où on était. Mais c'est comme ça, Canal+, c'était pareil.
C'était pareil, hein, c'était en novembre aussi.
Et donc ils sont venus un vendredi, c'est ça, un vendredi ?
Ouais, un vendredi matin.
Un vendredi matin, et vous avez dû donc poser des congés. Et ça a duré combien de temps ? Plusieurs heures de tournage ?
6 heures environ.
6 heures de tournage ?
Pour 1 minute 30 à l'écran.
Pour 1 minute 30 à l'écran, ouais. C'est sûr qu'il y a un petit côté frustration quand même.
Ouais, mais avec beaucoup de retours à la clé, parce que là, je crois que le club, désormais, sa réputation a franchi les limites du département.
Ça passe de 30 à 300 membres, donc bientôt.
Ouais, puis après, ça fait des souvenirs super sympas, quoi. On a passé une excellente journée.
Alors, ce reportage est visible donc sur YouTube, hein, je crois, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Et donc, au début, on voit les interviews. On voit d'ailleurs Jackie interviewé, il est en train de rouler.
En train de rouler sur sa
voiture. Et il répond aux questions en même temps
de
la journaliste.
Alors là, c'était spécial aussi, ça, par contre. Donc, on avait l'équipe était constituée de 2 personnes de chez TF1, avec une petite voiture. Et puis là, quand vous me voyez à l'écran, en fait, où je suis en train de répondre et de piloter en même temps ma petite TSE, y a c'était une fille qui filmait. Elle était assise dans le coffre de la voiture. Et donc, elle me posait...
Coffre ouvert.
Coffre ouvert, bien sûr, ouais. Et donc, elle me posait des questions. J'avais un micro, mais il faut savoir que j'avais pas d'oreillette. Donc, le bruit de la voiture, le bruit de la mobilette... Avec le casque. C'était costaud. C'était costaud. Donc on me voit par moment pencher un petit peu la tête. J'ai un copain, il me dit pourquoi tu penches la tête quand tu réponds. Je dis non, je penche pas la tête quand je réponds, c'est pour essayer d'écouter, d'entendre ce qu'elle me dit.
En fait. Du côté du son.
Bon, le reportage est sympa, le début est sympa. Donc normalement, tu avais 2 minutes 30, c'est ça ? À peu près, prévu
le reportage.
On avait dit que le reportage durait entre 2 minutes 30 et 3 minutes.
Voilà. Et au bout d'une minute 30, on parle plus de toi.
Hein, oui, on m'avait pas dit en fait qu'il y avait d'autres choses dans le reportage.
Et on va dans un bouclard parisien où on a donc 2 jeunes qui rentrent une 103 sortie d'une grange.
Hein. Très belle 103.
On aimerait bien trouver des 103 sorties d'une grange comme ça chez nous. Hein.
Ouais, ça j'aimais un peu moins dans le reportage.
Voilà, rutilante la 103, hein, pourtant.
C'est des granges propres, hein, sur Paris.
Ouais, c'est ça, bah ouais, c'est bien.
Ouais, moi c'est l'état du moteur qui m'avait choqué un peu. Enfin, la mob était propre, mais le moteur encore plus, quoi. Quand on regarde les images, il y a un bel antiparasite NGK, pour pas citer la marque, tout neuf. Quand il enlève le moteur de la partie cycle, on voit que les carters, tout est propre, tout est nickel.
Pourquoi il enlève ce moteur de la partie cycle ?
Pour y mettre quoi ? Un moteur électrique ? Non !
Moi, j'ai mis un petit commentaire sur Facebook, le montage d'un moteur de... Attendez, j'ai noté ça comment ? Le montage d'un moteur de moulin à café avec sa batterie chinoise.
Franchement, il n'y a que des Parisiens pour faire ça.
Oui, puis il n'y a que des journalistes pour relayer l'information. Non, mais nous aussi, à Mobenco, on a mis le rétrofit, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, le rétrofit, c'est-à-dire qu'on prend une base d'un véhicule thermique ancien pour y greffer un moteur électrique moderne. On a traité le sujet il y a quelques numéros, on s'est fait un petit peu incendier par un nombre de lecteurs, mais c'est notre rôle, à nous, médias, d'expliquer ce qui existe. ce que les gens, les mécanos sont capables de faire. Donc voilà, ça va pas au-delà. Après, chacun a son point de vue sur la question, c'est bien normal. Mais aujourd'hui, en 2021, oui, ça peut pas. Alors, ça peut choquer effectivement quand la mobilette est en parfait état, comme c'était le cas ici, comme le disait Jackie. Maintenant, on peut aussi imaginer quelqu'un qui retrouve, et notamment quelqu'un qui habite dans les grandes villes. Et je sais que vous avez traité le sujet des ZFE il y a pas longtemps.
Ouais, j'allais en parler.
On connaît bien la question. On peut imaginer quelqu'un qui habite dans une grande ville récupérer une épave ou un cadre de mobilette sans le moteur. Pourquoi pas finalement? Plutôt qu'elle ne disparaisse, cette mobilette, si elle peut servir d'engin de déplacement, on le disait tout à l'heure, au quotidien dans une grande ville.
Pourquoi pas? Le pourquoi tout, pas. C'est de pas faire de la pensée unique et vouloir absolument que tous les moteurs thermiques soient démontés de toutes les mobilettes ou motos ou voitures pour être mis, et les anciennes surtout, pour être mis par de l'électrique. Il y a aussi. Chacun doit en tirer ce qu'il doit en tirer pour son propre usage. Et il faut que de tous les côtés, il y ait de la tolérance et que ça se passe intelligemment, tout ça, et pas simplement par dogme. Et ça peut être un petit peu la problématique aujourd'hui du dogmatisme en fait de l'électrique, mais ça reviendra.
Pour ma part, je vais surveiller moi pour récupérer les moteurs thermiques du coup.
Oui, tout à fait. En fait, grâce à eux, on va avoir des meilleurs moteurs thermiques.
Voilà. Et je voudrais qu'on revienne aussi sur ta participation au Red Bull, là, le Gymkhana taille XXL qui est chaque année en Belgique. Donc on a eu l'année d'avant c'était dans la région de Gand et là c'était sur Courtrai en Jarre.
Ouais, j'ai fait les deux éditions.
Alors c'est une balade de 150 km à peu près
ouais.
Voilà, mais avec des épreuves.
Ouais, c'est extraordinaire.
Raconte-nous la première épreuve.
Alors sur la première édition, il y avait plus d'épreuves.
Il y en avait six.
Donc il y en avait une là, les embrayages c'était pas trop bon pour eux. On montait en fait une grande pente, une grande montée en pavé. Et puis en fait, c'était un concours de lenteur. Mais c'était le premier arrivé, donc c'était le perdant. On démarrait par... on était à 4 ou 5. Le troisième, c'était le premier. C'était le gagnant. Et puis comme ça... Et c'était en fait, c'est un concours de lenteur, mais c'était pas le dernier qui gagnait.
D'accord, donc lenteur mais pas trop.
Ouais.
Et donc toi t'es arrivé troisième
sur cette épreuve-là.
Donc premier
Je ne sais plus. Ouais, peut-être premier. Ouais, j'avais fait fort quand même.
Mais il y en avait une autre beaucoup plus costaud où tu devais pousser ton cyclo.
Ah ouais, c'est là où j'ai failli mourir. Donc en 2019, ça allait encore. J'ai tenu le choc. Mais en fait, il faut savoir qu'avant de prendre cette montée en poussant le cyclomoteur, il y a déjà en fait une autre montée. Et puis là, il y a eu une interdiction cette année de prendre la première montée en roulant. Donc moi, j'avais commencé. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a 40 ans de club derrière. Et puis, donc arrivé au milieu de cette montée, là, je commençais à fatiguer. Mais bon, j'y allais parce que c'était l'épreuve. Et puis, je discute avec quelqu'un qui est sur le côté de la route. Et puis, cette personne me dit en fait que c'était pas l'épreuve. On se rendait au point de départ de l'épreuve pour commencer l'épreuve. Donc là, j'ai pris un gros coup moral. J'ai mis la mob en route, j'aurais pas fini de toute façon. J'aurais pas pu finir.
Bon, c'est une manifestation sympa quand même, parce qu'il y a 500 participants qui...
Ouais, puis c'est surtout, ça témoigne un peu de l'esprit...
convivial.
C'est ça. La mob, c'est vraiment, les manifestations, c'est vraiment quelque chose de fun, en fait. Les gens se prennent pas trop au sérieux. Les organisateurs font ça bien, ils organisent ça aux petits oignons. Mais je veux dire, derrière, il y a toujours un côté un peu...
Ludique,
ouais, voilà. C'est peut-être un petit peu moins sérieux que la moto à certains égards.
Et en plus dans les Flandres, bien. Avec des frites et de la bière en plus.
Voilà.
C'est-tu pas formidable, hein? On va passer un petit morceau de musique et après on devrait avoir le témoignage de Gaston sur sa Chrysler Florette. Va m'en compter. I'm taking out the club. Rock'n'Roll sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto et de la mob aujourd'hui. On a Gaston avec nous qui a piloté une Chrysler. Allô Gaston ?
Oui, je suis là. Bah, piloter, c'est le mot exact en fait, puisque j'ai eu un ami très jeune. J'ai eu à 16 ans et tout s'il adresse. Donc, à l'époque, c'était en 72, c'était encore à 16 ans le permis de conduire. Après, mon frère, c'était la licence 125 à 16 ans et le permis à 18 ans. Bon, enfin, à l'époque, c'était 16. Donc, si tu veux, je suis un grand frustré. J'ai quasiment pas été mobiletteux très longtemps. J'ai été mobiletteux une petite année avec, comme tout le monde, une bleue, des bleus. Et puis, après, je suis passé directement à la moto à 16 ans. Et puis, un beau jour, dans le cadre de mon travail, je m'en vais chez un collègue. Et puis, le ouvrier qui bossait là, le mécano, me dit, au fait, je sais que t'aimes bien les deux roues, j'ai un truc qui traîne dans le sous-sol, un 50, ça te plairait, ça t'intéresserait. Bah, je dis, viens, on va aller voir. On descend, puis un Kreid. Parce qu'on disait pas un Kreidler, on disait un Kreid à l'époque. Un Kreid, oh putain, un Kreid, combien est-ce que tu le vends ? À 1200 francs, à l'époque où on parlait en francs. Et puis, il dit, écoute, je le prends tout de suite, j'ai même pas discuté le prix. Bum, dans le fourgonnette, et paf, je me balance dans ma garage, devant ma bureau. Mais je raconte l'anecdote parce qu'elle est géniale. C'est important ce que je raconte. Et là, c'est là qu'on va voir tout ce que c'est que la mécanique de Stuttgart et la mécanique allemande. Je prends devant mon bureau, je fais mon boulot tout l'après-midi, et puis arrive le soir, j'ai fini, je vais pour fermer les volets, et puis rentre un gars de Kikaku, vous connaissez très bien, Albert. L'Hochberg qui dégringole, il rentre, il dit « ça va Gast ?» Bon, il dit « ouais, ça va ». Il se retourne, il dit « c'est quoi cette ferraille que t'as là ?» On le voyait de derrière, complètement en biais, sur le béquille central. J'ai un caté soit tout à l'heure, j'ai un caté à crée de l'air, là, je sais pas là. Et il dit « il est moqué le moteur ou pas ?» Je sais pas, ça fait 10 ans qu'il traîne dans le sous-sol, mais j'ai pas encore le temps de regarder, je l'ai ramené, puis j'ai eu mon boulot. « Bien, on va aller voir. » Allez hop, on fait les 4-5 mètres qui nous séparent du crâne. Puis on tire sur le pédale, on tire. J'ai une pédale et on kick pas en appuyant. Et aller du côté gauche, on tire sur le pédale. Puis tu vois, il est même pas bloqué au bout de 10 ans. C'est incroyable. Puis chacun son tour, on s'amuse à tirer le pédale comme ça. Elle va savoir pourquoi. Je vous le mets en 1000. Je sais plus quel des deux tire le pédale, donc il démarre. Je vous le jure, on tire sur le pédale. On s'est regardé. On n'en revenait pas. Le bazar, il n'est pas tourné depuis des années, il n'est pas bloqué, et on finit par... Et comme ça, sans chercher à le démarrer, on l'a démarré. Eh bien ça, franchement, choché de le bécane. Alors c'est tu comprends bien pourquoi les gars qui n'avaient pas leur permis à l'époque et qui n'avaient pas trop d'argent, ben c'est pas une question d'argent, parce que le crédit, il était
Il était aussi cher que les 125 de l'époque.
C'était une question de permis de conduire, et puis qui voulait être motard avec le Barbour, le Cromwell et la Climax, enfin les Climax, puisqu'il y a deux verres.
Et parce qu'elle fait moto aussi, t'avoueras qu'elle fait moto.
Bah t'as vu la taille du moteur, toi, on dit un moteur de 125. Hein.
Ah, avec les ailettes, ouais.
Et puis le réservoir au milieu, puis la boîte de vitesse, parce qu'il y avait beaucoup de variomatiques à l'époque, tu prends la spéciale TT, c'était un variomatique, tu sais, chez Mobilette. Donc là, t'avais cet engin en tôle embouti qui était relativement robuste, la preuve c'est qu'on l'a démarré au bout de 10 ans, tu vois.
Et relativement puis, moche aussi, t'avoueras quand même.
Hein ?
Relativement moche aussi, un peu quand même, t'avoueras.
Bah oui, c'est alors moche. On en parlait un peu hier. Moi, je me souviens, c'était l'époque de la Gitane Testi, c'était l'époque des Malaguti, c'était l'époque des... Comment ça s'appelait, là, tout ce qui était les
Cimati.
Machines italiennes. Hein, les Gitane Testi, les Malag, tous ces mobilettes à... Tout était mobilette à notre époque. Hein. De toute façon, c'est simple. Tu voyais un Peugeot 103, tu disais une mobilette. Hein. D'ailleurs, ceux qui roulaient là-dessus, on les appelait des mobiletteux. Bah, c'est vrai, t'es un mobiletteux. Ça veut dire que tu roules en 50, en fait.
Oh, maintenant, c'est des Maubeux, c'est un petit peu pareil.
Et donc, tu disais que c'était le seul 50 qui pouvait aller dans les concentres parce qu'il faisait vraiment moto.
Elle faisait moto, puis elle avait un gros réservoir, donc ce qui conférait quand même une belle petite autonomie pour rouler, parce que tu sais, une Malaguti avec son petit réservoir, tu devais t'arrêter tous les 2 heures pour faire ton plein, peut-être moins, je sais pas, j'en ai pas eu, mais enfin, Crédit, il y avait déjà un beau réservoir. Donc ça faisait une tête de moto avec un engin qui avait quand même pour un 50 des capacités routières, ça c'était génial. Et puis il restait plus qu'on va mettre le Cromwell, le Barbour, et puis Equimax, et puis en avant la musique, et les bottes CD, puisque c'est... Ah non, c'est des paraboots avec des lanières sur le côté. Là. Et puis voilà, et puis on retrouvait ces gars-là dans les concentres. Alors ça, c'était assez génial. On arrivait dans les concentres, ou quand on partait en vacances au bord de la route, et puis on retrouvait ces gars-là avec leur guêpes, on appelait ça aussi des guêpes, hein, parce que ça faisait un pot à bap, hein. Et puis ils taillaient la route, les mecs, et puis ils étaient considérés par les motards comme des motards, en fait, à part entière. Et c'était assez rigolo, c'est le seul 50 cm cube. Ouais, voilà, on a entendu le guêpe là derrière. C'est le seul 50 cm cube avec un peu le Zundap aussi, qui on avait un peu comme la double manche Gibson de Jimmy Page. C'était un des rares engins qui avait une entité. Et c'était Cride.
Ouais, et qui faisait rêver les jeunes de rouler un petit peu en moto malgré que ça n'était qu'une 50, effectivement. Et la Zundap, un peu plus tard que ça, c'était bien ça. Hein. Ouais, ça fait son succès.
Ça leur donnait le droit de pitié dans les concentres quand tu avais béquillé ta bécane et que tu te baladais avec ton barbeau et ton cromwell accroché à ton ceinturon. Tu avais quand même la
croix. Tu savais plus en quoi tu étais venu.
Donc, tu vois, une fois que tu étais arrivé là-dedans, tu avais toujours la tronche de motard. On n'allait pas trop chercher avec quoi tu étais arrivé. Ceci dit, quand tu t'étais tapé 200 bombes en Chrysler, t'étais obligé de faire casque-bas, quoi. Il n'y a pas photo. Je veux dire, il fallait quand même le faire. Hein.
C'est vrai. Tu vas la garder alors. Tu l'as gardée, ta Chrysler. Tu l'as encore.
Ouais, elle est tout dit là, et Dalgrange.
Elle démarre encore.
Je la garde. En fait, quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai deux frustrations. En fait, j'en ai trois mécaniquement. J'étais mécano toute ma vie.
Oui, les autres, on ne veut pas les entendre.
Voilà, j'ai jamais eu de pétoir à vitesse. Ça, le pétoir, ce qu'on appelle pétoir chez tous ces mobilettes, pas toucher les 50. J'ai jamais eu de Solex. Ça m'a toujours énervé de ne pas avoir eu un Solex. Et les deux chevaux, ça rentre un peu dans le même cadre. J'avais jamais eu de deux chevaux. En fait, tout ce qui est pourri, j'adorais. Et puis, tout ce qui est moche. Et puis, bon, j'ai peut-être pas pour les femmes, mais en tout cas pour les machines. Bon, il y avait aussi, si on veut faire un peu d'historique, hein, dans le cadre des machines moches de l'époque, il y avait la 125 MZ.
C'est vrai. Mais là, on s'écarte du sujet, Gaston, parce que là, on est dans la rubrique cyclo.
Ben non, on s'écarte pas du sujet, parce que, regarde, réfléchis bien, l'esthétique, Chrysler est encore un cadre en temps d'abouti, et on commençait à voir arriver les Japonais sur le marché avec des beaux cadres tubulaires, des belles peintures monochromes, polychromes, voire même chez Ducati, des peintures pailletées, souviens-toi les Desmos. Ouais. On voyait arriver quand même des engins qui avaient de la gueule. Je parlais des Malaguti, des Gitantesti, tous ces engins-là, ils avaient de la gueule. Chrysler, à l'époque, ça faisait quand même... ça faisait Allemagne de l'Est, hein, y a rien à faire. Hein.
Ouais, mais en même temps, c'est tellement moche que maintenant, on trouve ça beau, si tu veux, quoi. Merci Gaston pour ton témoignage. On pourrait t'écouter parler pendant des heures, tellement t'as d'anecdotes à nous dire, mais hélas, nous avons un temps contraint. Merci pour ton témoignage, et puis, quand tu veux, une fois prochaine, pour parler d'une autre de tes frustrations. Ça marche?
Il n'y en a pas tant que ça au final.
Allez, bon dimanche.
Allez, bonne visite à faire tous. Allez, ouais. Salut.
Allez, ciao. Bah, ça déménage, hein. Sur Radio Campus, là, la musique, c'est, on sent qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Hein. Donc là, on va un petit peu changer de sujet, Eric. On va parler d'aventure.
Ouais, on va parler d'aventure. Il y a Quentin, notre explorateur à moto, qui est là avec nous et qui va nous parler d'un autre explorateur, qui est Claude Mahé, hein, qui chantait beaucoup d'ailleurs quand il roulait. Et qui, lui, pour faire un lien avec ce qu'on avait vu avant, on n'est plus tout à fait sur la mobilette, c'était un peu plus gros, mais néanmoins, il a fait ça sur une Zune DAP.
Donc, ah ben, pour rester dans le truc moche.
Dans le thème moche. D'époque. Et en fait, on va voir ce que va nous raconter Quentin là-dessus. Il y a plein d'anecdotes sur une énorme raid entre 1954 et 55 de 25 000 km, hein, quand même, c'est pas de la rigolade.
En Afrique
il a fait toute la partie gauche de l'Afrique, hein, le nez de l'Afrique, je sais pas comment on l'appelle, ou le front, enfin j'en sais rien. Et en fait, on sait que pour faire de la moto, on est plutôt tous un peu hédonistes, hein. On fait dans les mots sympas aujourd'hui, tu vois.
Il y a du vocabulaire, hein.
Recherche du plaisir en permanence, etc. Donc, on verra qu'à la fin, il faut pas seulement être hédoniste, en fait, pour faire de la moto à l'époque, il faut aussi être ébéniste. Et vous comprendrez mieux tout à l'heure.
Pourquoi il va finir dans une caisse en bois, ou...
Ben, écoute, tu vas voir. Donc, Quentin, bonjour.
Bonjour, Eric. Alors, le personnage qu'on va parler aujourd'hui, c'est Claude Mahé. C'est pas vraiment l'esprit aventurier, c'est plutôt l'esprit scientifique. Parce que, donc déjà, il est parti avec son ami Guy Siré, qui lui était mécanicien, avec deux sidecars Zune DAP KS750, des anciens sidecars allemands qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Alors, je dirais que c'est peut-être le meilleur véhicule de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on parle sur un sidecar qui est équipé de boîtes courtes, boîtes longues, blocage de différentiel. Donc, ça veut dire que soit.
Presque un 4x4, quoi.
Ouais, c'est-à-dire soit on pouvait avoir la roue arrière qui tournait tout seul, soit les deux roues en même temps, avec marche arrière aussi. Des engins qui à vide pesaient 450 kg. Ils ont monté une grosse caisse dessus à la place du siège passager, hein, du panier. Et c'est une caisse qu'ils ont chargée. Au final, les deux sidecars pesaient plus d'une tonne, tu vois. Et ils ont mis à l'intérieur, ils les ont chargés de pièces de rechange, de treuils, d'une cantine.
Oui, puis de l'essence, de l'eau, etc. Quoi.
Bah, c'est impressionnant. Ils ont mis 5 jerrycans de 25 litres. ils ont mis de l'eau, 100 kg d'outillage, 150 kg de pièces, des vêtements, matériel photo aussi, puisqu'ils faisaient de la photographie. Ouais. Une machine à écrire, puisqu'ils correspondaient. Hein. Leur opération a été sponsorisée par une trentaine de marques françaises.
Hein. Alors, c'était pas vraiment du sponsoring à l'époque, c'était un peu bizarre, mais.
Ouais.
Mais en tout cas, les gens aidaient.
Ouais. Il était envoyé en Afrique. En fait, il a traversé carrément toute l'Afrique du Nord, hein, toute la partie nord de l'Afrique. Et il a fait des comptes rendus pour des marques comme Shell, tu vois, vraiment pour. À but touristique, pour dire un peu les endroits qu'il y avait à voir. Mais il n'a pas fait que ça, j'ai pas eu trop le détail. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses à dire sur lui, donc on va passer un peu ses sponsors.
Et effectivement, et tu disais, ils ont tout pris dans leur sidecar qui faisait chacun une tonne, mais ils n'avaient pas de camion suiveur, rien du tout. Donc ils étaient en toute autonomie, en fait, avec leurs deux sides.
Ouais. C'est ça. Et alors, c'est marrant parce que les sides, ils sont passés quand même. On est dans un engin qui était surchargé, hein. La consommation annoncée au 100, d'origine on est à 6 litres au 100, les sidecars consommaient 25 litres. Donc ils sont partis de Paris, ils ont traversé l'Espagne, hein, pour rejoindre le Maroc.
Médiatisé, hein, le départ de Paris, etc.
Oui, oui, ils ont été à
Paris-Dakar maintenant.
Hein, ouais. Mais c'était bien avant le Paris-Dakar, ouais, là on est en 1954. Et ils ont été de toute façon suivis par plein de clubs moto en France et en Espagne.
Alors beaucoup avec les journaux, les radios, pas de télé à l'époque, la télé existait.
Non, la télé n'était pas si développée que ça à l'époque. Ouais. Puis ils sont arrivés au Maroc. Ils ont traversé le Sahara entre Tindouf et Saint-Louis du Sénégal. Donc c'est là en fait qu'ils ont fait un catalogue des ressources touristiques et géographiques. Alors leur technique, alors souvent dans les films ou même dans le Paris-Dakar, on les voit accélérer et traverser les dunes et tout ça. Bah eux, ils ont fait tout le contraire. À chaque fois, ils ont contourné les dunes parce qu'ils voulaient justement pas se retrouver embêtés avec des gros bazars d'une tonne. Hein. Ils les ont contournés.
Ouais, ce qu'ils disaient, c'est un explorateur doit pas vouloir être rapide.
Oui, donc, c'est ça.
Et effectivement, eux prenaient tout leur temps.
Voilà. Donc des fois, ça pouvait leur arriver de faire 2 ou 3 km juste pour contourner une dune de sable. Et une fois arrivé à Dakar, il y a eu la fête du motoclub local. Hein, qui a eu, alors, c'est là qu'il y a eu déjà les premiers soucis, parce qu'ils ont serré un moteur à cause du sable, justement, du Sahara.
Sable très fin.
Très fin,
qui rentre partout.
Et c'est là qu'ils ont usé déjà leurs deux pistons. Enfin, hein, un moteur, le moteur de Siré, le mécanicien. Donc, dans leur caisse, au lieu d'amener un stock de pistons, ils avaient vraiment que deux pistons de rechange. Donc, c'est là qu'ils montent leurs deux pistons de rechange. Puis après, bon, ils partent de Dakar, ils rejoignent la Guinée. Et dans une forêt, bah, les machines surchauffent. Et là, ils cassent encore les deux pistons. Sauf qu'à ce moment-là, ils n'ont plus de pistons de rechange.
Mais ils sont en forêt.
Ils sont en forêt. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire en forêt, sachant que c'est des engins d'une tonne, ils ne peuvent pas les pousser. Et bah, ils se disent, bon, bah, y a du bois, donc on va fabriquer un piston en bois. Et donc l'arbre... C'est pas du sapin, l'arbre s'appelle de l'azobé. Alors, c'est un bois connu pour être dans les plus durs au monde, c'est un bois rouge. Hein. Ils ont utilisé d'abord une scie, puis une râpe, puis une lime, du papier de verre, puis après de la toile fine d'émery pour pouvoir lui donner la forme. Ça a pris une journée pour faire un piston en bois, puis ils se sont dit, ah ouais, mais en fait ça va déséquilibrer le moteur si l'autre piston est en métal. Donc ils ont pris encore une journée pour fabriquer un deuxième piston en bois.
Et du coup, ils avaient un piston, je ne savais plus quoi en faire en métal.
Presque ça. Mais alors, une fois qu'ils ont donné la forme au piston, moi, je pensais qu'ils allaient directement le monter. Mais en fait, non. La technique, ça a été de le chauffer, de le brûler, de le culotter au lance-flamme. Ah oui, parce que ils avaient amené quand même un lance-flamme qui avait été donné par un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Donc, ils l'ont chauffé au lance-flamme pour
si
le durcir.
Ils avaient pris ça comme arme.
Ah, oui. On reviendra après là-dessus. Ouais. Ils ont laissé tremper aussi dans l'essence leur piston en bois. Et alors là, je cite vraiment le témoignage de Claude Mahé. Au troisième ou quatrième coup de kick, le moteur toussa, l'allumage se produisait normalement, il y eut deux ou trois spams et démarra. Alors ils ont réussi à s'extirper de la forêt, ils ont fait 16 km à 50 km/h de moyenne pour rejoindre Nzérégoré. Je sais vraiment pas prononcer
c'est pas grave,
la
personne connaît le nom.
Nzérégoré. Et donc, arrivés du coup au consul du Liberia, ils ont pu commander une paire de pistons. Et alors, c'est étonnant, à l'époque où il n'y a pas internet et tout ça, leur stock de pistons est arrivé au bout de 17 jours.
Ce qui est quand même pas mal, hein, mine de rien. Hein, qu'ils étaient au fin fond de l'Afrique et des forêts africaines. Hein.
Et d'après ce qu'ils disent, quand ils ont démonté les pistons en bois, ils ont dit ouais, mais en fait, on aurait pu encore continuer de rouler avec les pistons en bois, ça marchait très bien. Donc bon. Puis après, ils sont repartis de là-bas. Ils ont eu en fait des gros problèmes à la douane libérienne. Parce que déjà, les douaniers ne parlaient ni français ni anglais, en fait, aucune langue occidentale. Et eux ne parlaient aucune langue de là-bas. Sauf que dans leur caisse, ils avaient amené aussi ils avaient des armes à feu qui, elles, étaient déclarées. Mais ils avaient aussi un stock de grenades qui, elles, n'étaient pas déclarées. C'était un peu, tu vois, leur côté maniaque de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qu'ils nous racontent, c'est qu'à chaque fois que les douaniers passaient d'un côté du side, lui, il donnait des coups de pied pour faire passer le sac de grenades en dessous.
Il avait jeté son sac en dessous des sides, ouais.
Ouais. C'est un peu, je sais pas, si vous vous souvenez des Bidas en vente en guerre, vous voyez la scène avec les gamelles, quand il fait gamelle, 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 gamelle. Exactement ça, mais avec des grenades.
Et il donnait des coups de pied dans les grenades, hein. Ils ont quand même des bip, oui. Les mecs. Hein,
ouais, quand même, ouais. Un peu fait.
Et ça, et leur arrêt à la fameuse douane et les contrôles, ça a quand même duré une journée entière. Hein.
Une journée.
Tu sais, ouais. Des fois, nous, on se plaint quand on va quelque part et qu'on attend 3 minutes. Donc les mecs, ils ont quand même attendu une journée à se faire fouiller entièrement.
C'était pas la même époque.
Ouais, puis ils avaient le temps, ils l'ont dit. Hein. Quand on est explorateur, on a le temps.
Puis c'est surtout qu'ils avaient des sides allemands. Et je pense que.
Peut-être. Donc les Allemands sont lents, enfin, je sais pas.
Non, mais je pense que ça devait rappeler peut-être une mauvaise époque par là-bas. Enfin, je comprenais pas tellement les campagnes de la Seconde Guerre mondiale en Afrique, mais tu vois.
Alors la bécane que nous a décrite Quentin, c'est celle qui a donné son nom à la concentration des éléphants, en fait.
Ah ouais.
Parce que la KS-750 attelée était donc effectivement assez grosse, donc elle était verte aussi, donc elle a été surnommée l'éléphant vert. Et les premières concentrations aux élèves avaient été organisées effectivement par des anciens militaires la plupart du temps et ils ont fait les premiers élèves avec cette bécane. C'est ce qui a donné le nom à la concentre.
Comme quoi, à chaque fois qu'on parle d'explorateur, parce qu'on en a parlé la fois dernière aussi, on peut pas s'empêcher de parler des éléphants.
Des
en
éléphants.
Fait.
Puis après avoir du coup quitté la douane libérienne, en fait, ils ont eu d'autres problèmes parce qu'ils ont passé Monrovia pour traverser la forêt et plein de rivières sans pont. Donc comment ils ont fait ? Bah, fallait fabriquer les ponts. Ils ont abattu des arbres pour fabriquer des ponts et parfois des radeaux. Ça, personnellement, j'aurais pas testé parce qu'avec un gros bazar d'une tonne, bon.
Il faut pas monter en même temps sur le même radeau. Quoi.
Mais résultat, ils ont vraiment traversé des grandes rivières en mettant leur sidecar d'une tonne sur des radeaux fabriqués avec le bois qu'ils avaient autour.
Comme quoi, Koh-Lanta, ils sont quand même pas très très bons en radeau. Hein. Je sais pas si vous regardez Koh-Lanta, mais des fois à deux dessus, le radeau il coule.
C'est pas le même bois.
Ouais, ouais, ça doit être ça.
C'est
ouais.
Plus le même bois.
Et alors, l'anecdote, c'est que vraiment les gens les quelques autochtones là-bas les ont mal regardés parce qu'ils ont traversé le pays de Niamou. Niamou, c'est le diable de la forêt. Et en fait, il disait que déjà, quoi de plus illogique qu'un engin à trois roues, tu vois. Et en fait, ils étaient perçus un peu comme, comme la figure du diable avec leur truc vraiment bizarre.
Et d'ailleurs, c'était les premiers avec un véhicule à traverser ces forêts et aller sur cette exploration-là. Hein. Après, il y en a eu d'autres, forcément, mais eux, c'est les premiers avec un véhicule qui sont mis là-dedans. Ils l'ont refait après en pirogue, d'ailleurs, au niveau des rivières, etc. Les mêmes, Mahé. Hein, mais c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est là-dedans avec un moteur, en fait, effectivement.
Ouais. Mais c'est les premiers à avoir traversé la forêt du Liberia.
Ouais.
Et Claude Maillet a sorti un livre plus tard, ça s'appelle « Au Liberia » des éditions du Soleil de Levant, donc en 1958, mais il y parle pas du tout de mécanique, c'est vraiment, quand je dis, c'était pas vraiment... Enfin si, c'est un explorateur, mais c'était vraiment un scientifique, il a fait des comptes rendus sur la forêt, sur les gens là-bas...
Sur les gens, parce qu'il y allait aussi pour faire un truc sur les fétichismes locaux. Hein.
Oui.
C'est un ethnologue.
Un ethnologue, ouais, on peut le dire comme ça aussi, ouais.
Puis
mais je sais pas quel fétichisme, si t'es rentré un peu plus dans le détail sur les fétichismes.
Non, bah après,
il y a les masques des gens, etc. Mais je sais pas s'il est rentré dans d'autres fétichismes. Mais on n'en parlera pas dans cette émission.
Ouais, c'est une émission de radio consacrée à la moto. Donc,
ouais. Idéalement, je vous invite à lire son livre Au Liberia. Puis je trouve après que c'est très intéressant finalement d'étudier un peu tous ces anciens voyages parce qu'il y a toujours des anecdotes, tu vois, sur comment. Se démerder finalement, tu vois, si tu casses ton piston, au final maintenant je t'ai donné la technique si tu veux t'en faire un en bois, tu vois.
Ok, voilà, donc ne partez jamais en vacances avec votre moto sans un bout de bois dans vos valises.
Faut prévoir une scie, une lime. Voilà.
Bon, merci beaucoup Quentin de nous avoir présenté un petit peu ce Claude Maillet et son expédition magique qu'il a pu faire à cette époque-là, je rappelle, 11 mois et 25 000 km.
On arrive donc à la fin de cette émission consacrée principalement à la môme, mais pas seulement. On va remercier nos invités, Eric, donc Bertrand, le rédacteur en chef de Mob & Co.
Merci à Kikinkou de l'invitation. J'invite tous les gens à venir nous découvrir en kiosque, donc ça se trouve assez facilement. Et surtout, nous faire part de ce qu'ils peuvent organiser, ou même les propriétaires de belles machines, de belles mobs, de nous le faire savoir, parce que ça sera avec plaisir quand on ira leur rendre visite. Donc un petit mail, la rédaction, l'adresse, elle est facile, c'est rédaction sans accent, .mobenco, comme le titre du journal, @lva.fr.
Formidable. Donc la perche est tendue à notre ami Jackie du Stick Cube des Web.
Oui, je vous remercie bien également pour m'avoir invité. C'est toujours un réel plaisir de passer vous voir.
Et donc tu vas pouvoir envoyer des infos à notre ami Bertrand. Vous allez vous voir là bientôt.
Ils vont plus quitter. Hein. Ils se sont vus physiquement grâce à l'émission. Ils vont plus quitter.
Reste correct, s'il te plaît. Merci Eric pour ta participation efficace.
T'en prie, là,
on remercie Papat aussi d'avoir participé à la préparation.
Hein. Et on n'oublie pas Quentin.
Et on n'oublie pas Quentin, notre explorateur à moto.
Merci.
Bon, je vous rappelle qu'on est en train de préparer le calendrier Kikinkou. Donc n'hésitez pas à envoyer vos dates de manifestation. Pour ça, vous avez une adresse calendar@kinc.fr ou alors tout simplement, vous allez sur le site de Kikinkou, kinc.free.fr et vous avez un formulaire. Merci à Laurent pour cette programmation musicale encore de qualité et je vous dis à dimanche. Merci,
salut.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Salut.